Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Contact Costco, sélection du Reader's Digest et relations. Au programme, changer d'air. Ces 8 choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait. Et défis et aspirations de la jeunesse IU. Bonne écoute.
Changer d'air, un circulateur d'air aide à réguler la température, un texte de Éric J. Martin, paru dans Contact Costco en mars 2023. Nos fidèles ventilateurs sont toujours là pour nous sauver les chaudes journées d'été. Mais il existe un moyen encore plus efficace de rester au frais, un circulateur d'air. En hiver, il aide même à faire circuler l'air chaud dans toute la pièce. Le ventilateur produit un seul courant d'air créé par la rotation de ses pales et de sa tête, tandis que le circulateur aspire l'air par l'arrière et le propulse à travers sa grille avant sans pivoter, un peu comme un moteur à réaction. S'il faut être près du ventilateur pour sentir son souffle, le circulateur d'air crée, quant à lui, une sorte de courant jet qui rebondit sur les murs et les plafonds, assurant ainsi une circulation continue à travers la pièce. Le ventilateur a pour seule fonction de rafraîchir une personne en projetant l'air dans sa direction. Le circulateur d'air, qui est doté d'une plus grande girouette, pousse l'air plus loin. L'air circule à 360 degrés et est réparti dans toute la pièce, qu'il s'agisse d'air froid ou chaud, en fonction de la saison. Un circulateur d'air est aussi très discret. On peut le placer dans un coin ou sur une table. Il n'est pas nécessaire de le garder près de soi. Il est même plus silencieux et moins difficile à entretenir qu'un ventilateur traditionnel. Efficace, il consomme peu d'énergie. Un utilisateur vante les mérites de son circulateur d'air. « Dans ma maison, il fait circuler l'air et maintient la température constante, » dit-il. Mon modèle compte 3 vitesses. Le jour, j'utilise la vitesse la plus basse et la nuit, la plus élevée. Il est très silencieux et vient avec une télécommande pratique. Les experts suggèrent de faire fonctionner le circulateur d'air à plein régime à proximité de la climatisation par temps chaud afin de disperser rapidement et uniformément l'air frais. Durant la saison froide, on l'orientera plutôt vers le plafond à basse vitesse afin de répartir efficacement l'air chaud dans la pièce. Choisir le bon modèle. Il existe différents modèles de circulateurs d'air entre les appareils portatifs de table ou sur tour, les unités de pièces sur pied à hauteur réglable et les systèmes professionnels à grande vitesse. L'important est de choisir un modèle dont les dimensions et l'alimentation sont adaptées à la pièce ou à la zone d'utilisation. Le flux d'air est généralement indiqué sur la boîte. C'était « Changer d'air, un circulateur d'air aide à réguler la température », un texte de Éric J. Martin, paru dans Contact Costco en mars 2023. Ces 8 choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait, un texte de Léla Nargi, paru le 9 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. La forêt amazonienne, connue comme le poumon de la Terre, s'étend sur 9 pays, majoritairement au Brésil. l'Amazonie rétrécit néanmoins à un rythme alarmant, et si elle venait à disparaître, les effets sur notre planète seraient dévastateurs. La forêt amazonienne chevauche la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane française, le Pérou, le Suriname, la Guyane, le Venezuela et surtout, à plus de 60%, le Brésil, qui perd graduellement sa bataille contre la déforestation. Avant les années 1970, la vaste bande de forêt tropicale humide, qu'est la forêt amazonienne, comprenait, rien qu'au Brésil, 3,99 millions de kilomètres carrés. Mais ce chiffre n'a cessé de décliner depuis. Petit à petit, la forêt amazonienne est non seulement détruite par l'exploitation forestière illégale, mais aussi par les plantations de soya et l'élevage de bétail, dénonce l'ONG Greenpeace. En 2018, la partie brésilienne de la forêt amazonienne ne s'élevait plus qu'à 3,3 millions de kilomètres carrés. Le nouveau gouvernement brésilien, Jair Bolsonaro, au pouvoir depuis 2019, n'a pas les positions les plus vertes. Les environnementalistes prévoient donc que la superficie de la forêt chute rapidement dans les prochaines années. La forêt amazonienne renferme 10% de toutes les espèces végétales et animales du monde. Cette forêt tropicale emmagasine également 100 milliards de tonnes métriques de carbone et, selon la World Wildlife Fund Canada, elle filtre le dioxyde de carbone de l'air et contrôle le climat par évapotranspiration. Voyons ce qui se passerait si la forêt amazonienne venait à disparaître complètement, emportant avec elle ses mystères inexpliqués et ses 30 millions d'habitants. Précipitation défaillante. Une étude publiée en 2012 dans la revue Nature a montré que l'Amazonie était responsable de l'apport en pluie des régions environnantes. Or, la déforestation peut réduire les précipitations attendues sur un vaste secteur sur une période donnée, même si elle stimule l'augmentation des précipitations sur le coup. La déforestation pourrait fortement réduire les précipitations dans les parties non boisées du sud du Brésil, une riche zone agricole, ainsi qu'au Paraguay et en Uruguay. Augmentation de la sécheresse. Que se passe-t-il lorsque les précipitations sont plus faibles? Il y a moins d'eau à boire. Une des récentes sécheresses de São Paulo, au Brésil, a d'ailleurs été exacerbée par la déforestation de l'Amazonie. Moins de pluie signifie également qu'il y a moins d'eau pour l'agriculture. Pourtant, les précipitations en Amazonie aident à fournir de l'eau aux producteurs de soya et aux éleveurs de bœufs qui défrichent la forêt, selon le National Geographic. Les sécheresses ne feront que s'aggraver à mesure que davantage d'arbres seront abattus, menaçant l'approvisionnement en nourriture et en eau potable de toutes les régions avoisinantes. Augmentation des gaz à effet de serre. La déforestation de la forêt amazonienne nous conduit tout droit vers une ère de transition dans laquelle d'énormes quantités de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète seront libérées, toujours selon le National Geographic. Adriane Esquivel-Muelbert, écologiste brésilienne qui étudie les impacts du changement climatique sur les forêts, en particulier sur l'Amazonie, explique que les émissions de dioxyde de carbone augmenteront si massivement que tout le monde sur Terre en souffrira. La qualité de l'air sera moindre et les températures mondiales seront plus chaudes, causant à leur tour une foule de conséquences environnementales. Augmentation des inondations. L'Amazonie fait déjà face à une réduction des précipitations d'environ 25% dans certaines régions. Lorsque les pluies arrivent, le sol est tellement sec qu'il n'absorbe pas l'eau et ces pluies entraînent des inondations massives. Ce scénario, des périodes de sécheresse plus longues suivies d'une augmentation des inondations, ne ferait que s'intensifier si la superficie de la forêt amazonienne devait être réduite à nouveau par la déforestation. Le National Geographic note aussi que le climat en général oscillera et que les conséquences se feront sentir de loin. Perte de la biodiversité. Abritant un nombre impressionnant d'espèces de plantes, d'animaux, d'insectes et de champignons, la forêt amazonienne abrite un riche éventail de la vie qui existe sur Terre, d'autant plus qu'en moyenne, une nouvelle espèce est découverte chaque jour. Déjà en 2012, le journal britannique The Guardian sonnait l'alarme sur les espèces menacées et en voie de disparition, rapportant que beaucoup risquent une lente condamnation à mort alors que leur taux de reproduction chute et que la concurrence pour la nourriture devient plus intense. Détruisez l'Amazonie et une grande partie de cette diversité sera détruite en même temps, anéantissant tout un écosystème. Perte de possibilités médicales. Pourquoi les humains devraient-ils se soucier de cette perte de biodiversité? Bien que ce soit une sorte de cliché de dire que le remède contre le cancer pourrait se trouver en Amazonie, il s'agit aussi en quelque sorte d'une vérité, a déclaré l'écologiste brésilienne Adriane Esquivel-Muelber au National Geographic. Comme le souligne l'ONG Rainforest Trust, sur son site web, près de 90% des maladies sont traitées avec des médicaments dérivés d'éléments naturels, comme le venin de serpent, les moisissures ou encore un arbuste du nom de pervenche, un genre de plante vivace herbacée dont les origines sont en Amazonie. Combien de futurs remèdes seront perdus avec la disparition de la forêt amazonienne? Personne ne le sait. Augmentation des feux de forêt. La déforestation de l'Amazonie entraîne aussi une augmentation de la taille, de la fréquence et de la durée des incendies de forêt. Ces incendies libèrent davantage de carbone dans l'atmosphère, aggravant certaines des conditions déjà mises en évidence, telles qu'un climat de plus en plus chaud. Augmentation de la pauvreté. L'Amazonie abrite non seulement une faune et une flore impressionnantes, mais aussi des personnes dont beaucoup dépendent de la forêt amazonienne pour subsister. Toutes les forêts tropicales du monde fournissent de la nourriture, une sécurité énergétique, des revenus et des plantes médicinales à plus de 300 millions de personnes. À mesure que les forêts s'effondrent, les personnes qui en dépendent s'appauvrissent. Sans les forêts, les gens migrent vers les grandes villes ou se déplacent vers des pays plus nantis à la recherche de travail. C'était « Ces 8 choses pourraient se produire si la forêt amazonienne disparaissait », un texte de Léla Nargi, paru le 9 août 2022, dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Défis et aspirations de la jeunesse IU. un texte de Tania Larivière, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, de la revue Relations. La jeunesse autochtone au Québec et au Canada est extrêmement dynamique et en plein essor. Dans les réserves et communautés, elle représente bien souvent la majorité de la population. Elle n'en demeure pas moins confrontée à d'importants défis et contraintes dans un contexte où les conséquences du colonialisme se font toujours sentir. Pour en avoir un aperçu, nous avons demandé à Tania Larivière, chargée de projets spéciaux au Conseil des jeunes de la Nation Cree, de nous décrire la réalité des jeunes de sa génération qui habitent Iyu-Itchi, le territoire Cree, et les solutions qu'ils et elles mettent de l'avant pour affronter l'avenir en dépassant les différentes formes d'exclusion. Avant d'aller plus loin, si on s'intéresse aux jeunes autochtones, il faut savoir à quel point leur lieu d'origine influence les défis auxquels ils et elles font face à la manière de les aborder. Selon qu'on vive en réserve ou en communauté, en milieu urbain, comme à Val-d'Or, Chibougamau ou même Joliette, ou dans les grands centres, comme Montréal et Québec, il s'agit de trois réalités très différentes pour les jeunes autochtones. Des réalités qui, bien souvent, se vivent en vase clos, déconnectées les unes des autres. La manière d'aborder les enjeux y est aussi très différente. En tant qu'Algonquine de Val-d'Or qui a grandi en territoire Cree, ou Oudjé, et qui a fait ses études universitaires à Québec, j'ai un pied dans ces différents mondes, ce qui me permet de faire des liens, mais aussi de comprendre et de rendre compte de la réalité des jeunes qui vivent dans les communautés. Ensuite, une autre précision me semble importante avant d'aller plus loin. Il faut rappeler que la Nation Cree est elle-même un cas à part par rapport aux autres Premières Nations du Québec. C'est en partie lié au fait qu'on y parle davantage anglais, mais aussi en raison de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui nous confère une structure de gouvernement différente de celle de la plupart des autres nations, n'étant pas soumise à la loi sur les Indiens. Il faut en tenir compte lorsqu'on se compare aux autres. Malgré ces distinctions, je constate beaucoup de similarités en ce qui concerne les grands enjeux qui touchent les jeunes. Parmi ceux-ci, il y a d'abord l'éducation. En réserve, les écoles n'arrivent pas toujours à offrir le même niveau qu'ailleurs. Les cours de mathématiques ou de sciences avancées, par exemple, ne sont pas toujours disponibles. Les jeunes qui vont poursuivre des études post-secondaires dans les grands centres urbains partent donc désavantagés par rapport à leurs pairs. C'est oublier le fait que si le cursus est certes un peu adapté à la culture Cree, le cadre scolaire, lui, ne l'est pas forcément. Apprendre dans une salle de classe une culture qui se vit en grande partie sur le territoire est un peu contradictoire. Se plier aux structures scolaires tout en respectant les nôtres ne se fait pas aisément. Tout cela et bien d'autres facteurs a donc un effet sur la persévérance scolaire. Ce n'est pas la capacité des jeunes qui fait défaut. Il y a un énorme potentiel, mais ce cadre n'est pas toujours très stimulant et plusieurs sont rapidement démotivés. Et ce, pas uniquement dans les filières qui mènent aux études post-secondaires. C'est aussi le cas dans nos programmes de diplôme d'études professionnelles, DEP, qui sont tout aussi importants pour le développement de nos communautés. Surtout, le décrochage scolaire n'est pas sans lien avec d'autres défis, en particulier celui de la surpopulation des logements, qui est commun à presque toutes les communautés autochtones. En effet, il n'est pas rare de voir des familles de 12 personnes habiter la même maison, avec la mère, la grand-mère, les petits-enfants, etc. Or, qu'il s'agisse de logements sociaux offerts par les conseils de bande ou d'habitations privées, leur construction est plus compliquée et moins rapide dans nos communautés qu'ailleurs, par manque d'accès aux ressources et surtout à la main-d'œuvre. D'où l'importance de former des gens comme des électriciens, des charpentiers, etc., dans nos programmes de DEP. L'enjeu de la formation et de garder les jeunes sur les bancs d'école est donc crucial à plusieurs niveaux si on souhaite briser différents cycles d'exclusion qui s'alimentent mutuellement. Car les logements surpeuplés, le faible niveau d'éducation et aussi le manque d'activité pour les jeunes, à part le hockey, mais ce n'est pas pour tout le monde, ne sont pas sans lien avec les problèmes d'abus d'alcool et de drogue qui affectent nos communautés. Pour tenter d'y remédier, que ce soit à travers la structure du Conseil jeunesse de la Nation CRI, CJNC ou non, il y a beaucoup de jeunes chefs de bande et de conseillers locaux qui essaient de mettre sur pied des programmations pour les jeunes, des événements, des ateliers, etc., pour les intéresser et les garder occupés de manière plus constructive. Mais comme les problèmes de consommation seront toujours là, on commence aussi à parler de plus en plus de réduction des méfaits plutôt que de lutte contre les drogues, une approche qui ne fait qu'accroître la judiciarisation des jeunes déjà plus élevée que la moyenne dans les communautés autochtones. Vous écoutez « Défis et aspirations de la jeunesse IU », un texte de Tania Larivière, paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations. Dans un esprit similaire, il y a dans toutes les communautés une salle de cours qui prévoit différentes approches traditionnelles de guérison basées sur le territoire, qui permettent de ramener aux sources les personnes judiciarisées dans des campements ou des retraites de 21 jours sur le territoire, par exemple. Il y a des suivis un peu plus humains qui tiennent davantage compte du contexte et qui cherchent des moyens de réhabilitation qui sont adaptés culturellement. C'est une de nos belles réussites qui montre par ailleurs qu'il existe chez les jeunes une grande volonté de se réapproprier la culture traditionnelle. Surtout, le décrochage scolaire n'est pas sans lien avec d'autres défis, en particulier celui de la surpopulation des logements, qui est commun à presque toutes les communautés autochtones. Il y a en effet une grande demande pour différentes activités sur le territoire, comme les expéditions en canot, en raquette, le séchage et le fumage des poissons, etc. Pour mettre en place ces activités, au CJNC, on travaille beaucoup avec les aînés, bien sûr, mais les jeunes aujourd'hui ont aussi les compétences et l'expertise requises pour transmettre ces savoirs. Pour donner un exemple, à Eastman, les jeunes qui s'occupent du programme de pêche ont tous moins de 30 ans et savent tout ce qu'il faut savoir en la matière. Malheureusement, ce rôle de transmission culturelle n'est pas assez reconnu. On a encore l'idée que les experts, ce sont les aînés. Il faut reconnaître ce rôle et arrêter de romantiser la vie d'avant, qui était une vie très difficile, même si on était plus près de la nature. Il est vrai cependant que les temps ont changé extrêmement vite. L'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies et même des motoneiges est très récente dans notre histoire. Ce nouveau contexte demande beaucoup d'ajustements et entraîne d'importantes remises en question, en particulier chez les jeunes qui se posent beaucoup de questions sur ce qui est authentique ou pas dans leur pratique. Ces questionnements affectent directement l'identité, l'appartenance et ont un effet déterminant sur ce qu'on veut pour le présent et pour l'avenir. Malgré tout, avec notre génération vient une certaine prise de conscience qu'on arrive à maintenir notre identité même si on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Sans nier le passé, il faut maintenant composer avec le contexte actuel. Ce nouvel élan n'est pas étranger aux excuses officielles du gouvernement canadien, à la Commission de vérité et réconciliation et, avant elle, à la Commission royale sur les peuples autochtones, en 1991. Ces événements ont entre autres permis d'ouvrir la discussion sur le traumatisme des pensionnats. Accepter que cela fait partie de notre histoire nous permet de savoir comment envisager l'avenir et de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans nos interactions avec les différents paliers de gouvernement, les institutions et le monde extérieur. on comprend mieux certains réflexes de repli sur nous-mêmes, par exemple. On commence ainsi à avoir plus d'ouverture à parler des enjeux, à vouloir éduquer les gens qui sont autour de nous, incluant les allochtones, à propos de notre histoire, etc. On commence aussi à élever davantage la voix devant les injustices. Avec notre génération vient une certaine prise de conscience qu'on arrive à maintenir notre identité, même si on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont importants, mais la nouvelle génération en est consciente à bien des égards et saura y faire face en sachant que nos héritages culturels, linguistiques, mais aussi politiques devront être adaptés pour pouvoir se transmettre. Elle pourra aussi compter sur le poids du nombre, car la moitié de la population crie à moins de 24 ans. C'est toute cette génération qui devra entre autres se charger de la renégociation de la Convention de la baie James, qui sera inévitable dans une trentaine d'années, notamment en raison de la forte croissance de la population, des effets des changements climatiques, etc. Il faudra lui faire confiance, même s'il y aura sans doute des désaccords et des tensions. N'oublions pas aussi que Billy Diamond n'avait que 24 ans lorsqu'il a négocié la Convention de la baie James pour les Cris. C'était « Défis et aspirations de la jeunesse IU », un texte de Tania Larivière, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Evelyne Séverin et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.